Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La France soutient la candidate rwandaise pour diriger la francophonie, Louise Mushikiwabo. Le Rwanda est un pays qui privilégie pourtant l'enseignement de l'anglais à l'école. Invité de ce journal, Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État en charge de la francophonie. Le remaniement gouvernemental, une nouvelle fois repoussé, peut-être à ce week-end ou à la semaine prochaine. Emmanuel Macron veut se donner du temps pour constituer sa nouvelle équipe, alors que l'opposition dénonce une forme d'amateurisme présidentiel. Le reportage à l'Assemblée d'Olivia Chandiou. L'ancien socialiste Gérard Filoche, jugé en correctionnel pour un tweet à connotation antisémite. Le compte-rendu d'audience de Christine Monclat. Cela fait 8 jours maintenant que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a disparu à Istanbul le 2 octobre dernier. Il s'était rendu au consulat d'Arabie Saoudite pour des démarches administratives. Depuis, plus de nouvelles. Jamal Khashoggi peut être qualifié d'opposant au régime de Riyad. Il s'était exilé l'an dernier aux États-Unis où il écrivait pour le Washington Post. Alors que s'est-il passé au consulat saoudien d'Istanbul la semaine dernière? Le journaliste a-t-il été enlevé, voire assassiné, comme l'affirmaient des sources turques ce week-end. En tout cas, des images de vidéosurveillance révélées aujourd'hui accréditent la thèse d'une disparition forcée. Anne Andloer nous appelle d'Istanbul.
Sur les images diffusées par la chaîne turque 24 TV, on voit le journaliste entrer dans le consulat d'Arabie Saoudite le 2 octobre à 13h14. Un van noir est aussi visible, garé à proximité. Ce sont les dernières images de Jamal Khashoggi vivant. Une autre série de vidéos détaille les allées et venues d'un groupe de 15 Saoudiens soupçonnés d'être liés à la disparition du journaliste. 3h28 le matin du 2 octobre, ils atterrissent à l'aéroport d'Istanbul et montent à bord de véhicules consulaires. 5h05, ils s'installent dans un hôtel proche du consulat avant de s'y rendre. 15h08, ils quittent rapidement le consulat à bord de 2 véhicules et prennent la direction de la résidence du consul. La police turque estime que Jamal Khashoggi se trouve alors dans l'un de ses vans, vivant ou mort. 21h, enfin, le groupe de Saoudiens quitte la Turquie à bord de 2 jets privés. Si elle renforce les soupçons qui pèsent sur Riyad et donne du crédit à la thèse d'un enlèvement ou d'un assassinat du journaliste, ces vidéos ne répondent pas à la question clé de cette affaire. Où se trouve en ce moment Jamal Khashoggi?
Anne Andloer nous appelle d'Istanbul. L'Arabie saoudite du prince héritier Mohamed Ben Salman qui frappe à la porte de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La candidature saoudienne sera examinée demain à Yerevan, la capitale arménienne qui accueille le sommet de l'OIF. La francophonie qui devrait changer de chef à cette occasion. Et sauf surprise, la rwandaise Louise Mushikiwabo va succéder à la canadienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de l'OIF. Les deux femmes sont en compétition, mais Michaëlle Jean, mise en cause pour son train de vie jugé fastueux, a perdu le soutien de son propre pays. Au contraire, Louise Mushikiwabo a gagné celui de la France. On retrouve à Yerevan notre envoyée spéciale, Élise Delève.
Il y a 2 poids lourds économiques dans le monde francophone, la France et le Canada. Ils représentent à eux deux 1/3 du budget de l'Organisation internationale de la francophonie. La France voit l'OIF comme un outil d'influence de ses intérêts en Afrique. L'objectif d'Emmanuel Macron était donc d'écarter le Canada, rival naturel et soutien de Michaëlle Jean, l'adversaire de Louise Mushikiwabo. Paris a milité en coulisses jusqu'à la veille du sommet pour obtenir un consensus autour de sa candidate. Mais pourquoi soutenir la Rwandaise? Pour des intérêts bilatéraux, même si l'Élysée s'en défend. Choisir cette candidate, c'est poursuivre le rapprochement avec Kigali, initié par le président français l'année dernière. Les relations entre les deux pays sont tendues, voire rugueuses. Il n'y a pas d'ambassadeur français à Kigali depuis 2015. Ce positionnement français n'a pas été bien compris au sein de l'OIF. La francophonie s'appuie sur 2 piliers, le respect des valeurs démocratiques et des droits humains, ainsi que la promotion de la langue française. Le Rwanda, dirigé par une élite anglophone, est peu réputé pour ses performances démocratiques, ne coche aucune de ses cases.
Élise Delève, merci. Invité de ce journal, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge de la francophonie, que nous avons rencontré en début d'après-midi, avant son départ pour l'Arménie. Alors, 84 pays sont représentés à Yerevan. Certains ont une pratique marginale du français, comme l'Ukraine ou l'Uruguay, qui ont un statut d'observateur au sein de l'OIF. D'autres sont membres de plein droit de l'organisation, comme l'Égypte, un pays qui ne compte pourtant que 3% de francophones. Première question posée à Jean-Baptiste Lemoine, à quoi rime finalement une organisation de la francophonie qui regroupe de nombreux pays qui ne sont pas du tout francophones?
Il y a, je crois, au sein de la francophonie, des États qui effectivement ont le français comme langue officielle, le français utilisé dans la vie quotidienne, et puis des États qui ont manifesté le souhait de pouvoir rallier cette grande famille, de mettre en place un certain nombre de formations, d'adapter leur système scolaire pour que la langue française se développe, parce que la langue française, elle est très attractive à de nombreux égards. C'est avoir accès à un espace géographique qui est partagé par 300 millions de personnes sur les 5 continents. Donc le français, il est créateur d'opportunités économiques, culturelles, d'échanges, de formations, et on peut comprendre qu'un certain nombre d'États, de gouvernements souhaitent du coup s'arrimer à cet espace, développer l'usage du français dans leurs administrations, dans leur système de formation, et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que l'OIF, dont on va fêter les 50 ans en 2020, a été créé en 1970 avec 21 États membres, effectivement. 21 États membres, et nous sommes, vous l'avez dit, aujourd'hui à 84.
Oui, ça signifie... sur les 21 États membres, il s'agissait donc du noyau dur de la francophonie, de pays véritablement francophones. Là, à l'évidence, on élargit à des pays qui ont un rapport très lointain avec le français.
Mais je trouve qu'il faut se réjouir du fait qu'il y a les francophones pur sucre, si je puis dire, et également les francophiles. Et nous devons veiller à ce que la langue française puisse être toujours plus employée et surtout qu'elle fasse face aux défis actuels. Je m'explique que dans le numérique, par exemple, les contenus francophones soient accessibles et que nous ne soyons pas écrasés soit par la masse, à travers naturellement l'emploi de la langue chinoise qui est maîtrisée par des milliards d'habitants, par définition, ou par le tout anglais qui a tendance à tout envahir. Et donc, le fait d'avoir un nombre d'États croissants qui souhaitent s'engager, s'investir autour de la langue française, c'est, je trouve, de très belles augures. Et je me réjouis d'ailleurs que nous ayons constaté en 5 ans l'augmentation de 10% de francophones dans le monde. Nous sommes aujourd'hui près de 300 millions, comme je disais. Et on voit que cette augmentation du nombre de francophones, elle est aussi beaucoup le fait de la progression sur le continent africain, plus 17% de locuteurs francophones, parce qu'il y a aussi une dynamique démographique qui est là et qui fait dire au président de la République que désormais, le centre de gravité de la francophonie, il est quelque part entre le Sahel et le fleuve Congo. Et de ce point de vue-là, c'est un chantier majeur que de pouvoir, pour la France, s'engager aux côtés de ses États pour participer à la scolarisation des jeunes filles notamment, parce que c'est un des enjeux. C'est pourquoi la France d'ailleurs a mis 200 millions d'euros au pot, si je puis dire, pour pouvoir financer les activités du Partenariat mondial pour l'éducation. Eh bien, ça va participer de la diffusion de la langue française également.
Jean-Baptiste Lemoine, la France soutient la candidature de Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de l'OIF. Alors pourquoi ce choix, sachant que là aussi le Rwanda est un régime controversé avec un président Paul Kagame au pouvoir depuis maintenant 24 ans?
Eh bien, tout simplement parce que avoir une femme africaine à la tête de la francophonie, compte tenu de ce que j'ai dit sur la dynamique démographique et l'usage du français sur le continent africain, ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, demain, en 2050, 85% des francophones seront sur le continent africain. Et donc, Louise Mushikiwabo, qui est une diplomate de haut vol, est l'illustration et l'incarnation du multilinguisme et du plurilinguisme, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer le français aux autres langues. Et le Rwanda...
Justement, le Rwanda a fait le choix de privilégier l'anglais face au français.
Le Rwanda, il a fait le choix d'une stratégie plurilingue. C'est la mise en avant...
De l'anglais.
Mais pas seulement, de la langue nationale, du Kinyarwanda, qui est revenu également dans les écoles. Et donc, je crois qu'on est vraiment là. Le Rwanda a d'ailleurs souhaité développer à nouveau des programmes d'enseignement en français. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que la candidature de Louise Mushikiwabo, c'est une candidature qui est soutenue par l'ensemble du continent africain. Il y a eu une décision de l'Union africaine en juillet dernier, à Nouakchott. Et par ailleurs, la France a souhaité soutenir cette candidature pour que les pays du Sud puissent à nouveau retrouver le leadership de l'organisation après Boutros Ghali, l'Égyptien, après Abdou Diouf, le Sénégalais, deux personnalités qui ont laissé, je peux vous dire, des empreintes fortes au niveau de l'action de la francophonie. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Louise Moukichiwabo, dès lors que les chefs d'État et de gouvernement lui feront confiance, pourra également inaugurer un mandat qui sera marquant. Parce que vous savez, quand on est nommé secrétaire général de la francophonie, eh bien, naturellement, on échappe quelque part à son État. Et on est là pour incarner la famille francophone dans sa diversité, dans toutes ses valeurs. On est là pour mettre en avant et mettre en application la charte de la francophonie, pour mettre en application un certain nombre de déclarations et de principes qui, naturellement, eh bien, ont trait à la démocratie, ont trait à des chantiers aussi importants que la lutte contre le dérèglement climatique, que l'éducation et ou que l'égalité homme-femme. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, le Rwanda, je peux vous dire, est un État qui est très en avance et qui n'a pas de leçon à recevoir de personne.
Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge de la francophonie, interview réalisée avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Emmanuel Macron, lui, est arrivé ce soir à Yerevan pour ce sommet de la francophonie et ce n'est qu'à son retour d'Arménie que devrait avoir lieu le fameux remaniement gouvernemental annoncé depuis plusieurs jours. Aucun calendrier précis, vendredi soir, ce week-end ou la semaine prochaine, toutes les options sont sur la table. Cela fait tout de même 8 jours que Gérard Collomb a démissionné, 8 jours que le Premier ministre Édouard Philippe assume l'intérim au ministère de l'Intérieur. Une situation inédite dénoncée par l'opposition à l'Assemblée. Olivia Chandiou, la séance des questions au gouvernement a été particulièrement animée cet après-midi.
Oui, et cette séance commence dans une ambiance électrique. Le feuilleton du remaniement agace profondément les députés de l'opposition. Jean-Pierre Vigier, élu Les Républicains de Haute-Loire, donne le ton.
Monsieur le Premier ministre, la mascarade continue. Toute cette invraisemblable cacophonie n'aura permis au fond que de mettre en lumière l'affaiblissement de l'exécutif et votre incapacité à former une équipe gouvernementale digne de ce nom. Depuis 10 jours, vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Alors, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à ce psychodrame ?
Un psychodrame fait de pronostics et de bruits de couloir relayés par la presse, et notamment un, le désaccord qui existerait sur la composition du gouvernement entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Une rumeur que le Premier ministre balaye d'un revers de main.
Je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais, ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre.
Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, veut nous dire Édouard Philippe. Une expression que le Premier ministre a d'ailleurs empruntée à son ancien mentor, Alain Juppé. Le maire de Bordeaux l'avait employé en 2012 pour évoquer sa relation avec Nicolas Sarkozy alors qu'il était son ministre des Affaires étrangères. Toujours est-il que ce remaniement s'éternise et pour l'opposition, cela montre les limites d'Emmanuel Macron qui ne dispose pas, selon elle, d'un vivier important de potentiels ministrables et d'une assise politique suffisamment importante.
Olivia Chandiou, merci. C'est l'une des figures de la gauche radical. Gérard Filoche comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour un tweet dénoncé comme antisémite. Un photomontage posté en novembre 2017 où l'on voit Emmanuel Macron le bras levé devant un globe terrestre avec un brassard orné d'un dollar. Derrière lui, 3 personnalités, l'homme d'affaires Patrick Drahi, le banquier Jacob Rothschild et l'économiste Jacques Attali, et ce slogan « En marche vers le chaos mondial ». Un tweet qui a valu à Gérard Filoche d'être exclu du Parti Socialiste. Et c'est désormais à la justice qu'il doit rendre des comptes. Christine Monclat a suivi l'audience.
Y a-t-il eu, oui ou non, provocation publique à la haine ? C'est la vraie question de ce procès. Il aura fallu attendre 3 heures de débat pour qu'elle soit enfin posée par l'avocat de Jacques Attali, parti civil. Auparavant, les défenseurs d'associations de lutte contre l'antisémitisme, plus proches d'Israël, ont cantonné le débat sur un terrain purement politique. Peut-on être de gauche et antisémite ? A ainsi demandé l'un d'eux à un témoin cité par Gérard Filoche. Rien de mieux pour alimenter les diatribes de l'ex-socialiste qui se dit victime d'une cabale pour faire taire ses idées de gauche. Sa défense, une erreur. J'ai tweeté cette image sans faire exprès, sans en voir complètement les contours, par négligence. Mais tout chez moi est le contraire de l'antisémitisme et du racisme. plaide à la barre celui qui a cofondé SOS Racisme. Les avocats du MRAP, de la LICRA, de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, sont aussi, comme celui de Jacques Attali, sur une ligne technique. Pour eux, les débats sont hors sujet si l'on ne prend pas en compte la responsabilité de Gérard Filoche en tant qu'homme public politique qui diffuse ce genre de messages, même par erreur. Il est à leurs yeux primordial que le tribunal reconnaisse cette faute qui, par les temps qui courent sur les réseaux sociaux, est pour eux gravissime. Les excuses publiques de Gérard Filoche ne suffiront pas. Ils veulent une condamnation symbolique pour donner l'exemple.
Christine Moncla, jugement le 12 décembre prochain. La météo demain, très orageuse sur les régions méditerranéennes avec 7 départements en vigilance orange ce soir. Ailleurs, le temps restera sec et ensoleillé avant l'arrivée en journée d'une perturbation pluvieuse sur l'ouest. Température toujours anormalement élevée pour la saison, entre 9 et 18 degrés pour les minimales, de 18 à 27 pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.